Une fumée, un simple filet de fumée, déclencha tout. Lorsqu'Ulysse l'aperçoit, s'élevant droit vers le ciel, au milieu d'une épaisse forêt de chênes, il décide aussitôt de partir explorer l'île où ils ont jeté l'ancre. Mais la prudence est de mise. Après tous les drames qu'ils viennent de subir, et personne ne souhaite prendre de risques inutiles. Un tirage au sort désigne les hommes qui doivent partir en reconnaissance. C'est ainsi que 22 membres de l'équipage d'Ulysse, avec à leur tête Eurylochë, le capitaine en second, se fraient un chemin dans la végétation touffue. L'angoisse leur broie le cœur. Après quelques heures de marche dans cette forêt vierge, ils débouchent dans une clairière au centre de laquelle se trouve une jolie maison aux pierres polies. La cheminée fume. Pas ombre qui vive. La petite troupe se décide à approcher. C'est alors que surgit de nulle part une meute de loups gris aux yeux phosphorescents et aux crocs luisants. Ils sont accompagnés par des lions, griffes sorties, crinières au vent. D'un bond, les bêtes sauvages les entourent. Les marins croient leur dernière heure arrivée et fondent en larmes. Mais à leur grande stupéfaction, au lieu de les dévorer, les fauves se frottent contre eux comme de gentils matous, tandis que les loups remuent joyeusement la queue en jappant tels de jeunes chiens. Une voix mélodieuse s'échappe de la maison, celle d'une femme qui chante pour accompagner son fin travail de tisseuse. Sans doute s'agit-il de celle qui a dompté ces animaux. Peut-être ont-ils affaire à une déesse. « Ohé ! Y a quelqu'un ?» crient les visiteurs. La femme se lève, abandonne son métier à tisser pour les accueillir sur le seuil avec un grand sourire. Des cheveux châtains encadrent son visage pointu aux yeux verts en amande. Des bijoux en or étincellent à son cou et ses poignets. Elle est vêtue d'une élégante tunique vert sombre, en velours doux et brillant. Ses mains s'agitent gracieusement. D'un geste, elle intime aux animaux sauvages de s'écarter pour laisser le passage. De l'autre, elle invite ses hôtes à entrer. Cela fait si longtemps qu'on ne leur a pas souri ainsi. Sous le charme, la petite troupe se rue à l'intérieur. Seul Eurylochë, méfiant, préfère rester dehors. Les voici confortablement installés dans de moelleux fauteuils, tandis que leur hôtesse arrange les coussins, leur offre à boire et à manger. Jamais ils n'ont goûté de miel aussi doux, de fromage aussi savoureux, de vin aussi délectable. Leur bouche rit de plaisir, leurs yeux luisent de désir en regardant cette femme, belle et accueillante, les servir. Ils se croient arrivés au paradis. Emportés dans leur béatitude, ils ne remarquent pas que les yeux de la femme ont cessé de sourire. Ils sont devenus durs et tranchants. « Vous ne vous êtes même pas enquis de mon nom, brute que vous êtes, » dit-elle. « Eh bien, sachez que vous êtes dans la maison de la magicienne Circé, et puisque vous vous goinfrez sous mon toit comme des porcs, vous allez le rester à jamais. » Sur ces mots, elle saisit une baguette dont elle frappe un à un les hommes affalés devant elle. Or, elle avait pris soin de glisser dans le pain qu'ils viennent tous d'avaler une poudre magique. Aussitôt, voilà que leurs oreilles se mettent à grandir, leur nez se transforme en groin, leur peau rosit et se couvre de longs poils. Une queue en tire-bouchon leur pousse au derrière, tandis qu'ils se retrouvent à quatre pattes. Seuls leurs yeux gardent un aspect humain et versent des larmes de tristesse. Circé les conduit dans sa porcherie, où elle leur donne des glands pour nourriture. Elle les regarde se rouler dans la boue et pousser de piteux grognements d'un air moqueur, puis referme la porte, satisfaite. Eurylochë a tout vu, tout entendu. Il décampe ventre à terre. Lorsqu'Ulysse apprend le sort cruel qui vient de frapper ses hommes, il décide immédiatement de leur porter secours, malgré les supplications de son second. Il ne sait comment il va pouvoir résister au sortilège de cette Circé, mais il ne peut abandonner ses compagnons à ce triste destin. Malgré les circonstances dramatiques qui le poussent à partir ainsi, muni de sa seule épée et de son courage, Ulysse ne peut s'empêcher d'admirer la nature sauvage et luxuriante de cette île. La végétation y est un cadeau des dieux. Alors qu'il parcourt les vallons fleuris et les vertes collines qui mènent à la demeure de la magicienne, un jeune homme barbu surgit devant lui. Surpris, Ulysse porte la main à son épée, avant de reconnaître dans cette soudaine apparition le dieu Hermès en personne. Son casque et ses sandales ailées ne peuvent le tromper. « Où vas-tu d'un si bon pas ?» le questionne le dieu messager. « Tu vas te jeter dans la gueule du loup si tu te présentes ainsi chez Circé. » Le roi d'Ithaque fait signe qu'il le sait, mais qu'il n'y peut rien. Hermès éclate de rire. « Je reconnais bien là cette obstination têtue qui fait partie de ton charme. Ce petit côté bûcheron devrait plaire à Circé. » Trêve de plaisanterie. Si tu veux échapper à la magicienne, je te conseille de manger cette plante que j'ai cueillie pour toi. Son nom est Molly. Ulysse regarde la longue racine noire et la délicate fleur d'un blanc laiteux que le dieu lui tend et se dit qu'il tient là l'antidote qui lui manquait. Il prend soin ensuite de bien écouter les consignes que lui transmet Hermès afin d'obtenir la libération de ses hommes. « Merci, ô dieu messager, mais pourquoi m'as-tu ainsi secouru ?» lui demande Ulysse. « Zeus m'a-t-il pardonné ?» Le dieu messager s'éloigne déjà lorsqu'il répond. « Mon père, je n'en sais rien. Difficile de savoir ce qu'il pense à ton égard. Mais j'aime beaucoup ma sœur Athéna. » Peu de temps après, Ulysse parvient dans la clairière. L'entendant arriver, Circé se précipite sur le seuil et lui réserve le même accueil voluptueux qu'à son équipage. Le roi d'Ithaque est charmé par les traits réguliers de son visage et sa beauté le trouble. Mais il est venu pour libérer ses amis et ne veut en aucune manière se laisser détourner de son but. Vient le moment où, après avoir rempli la coupe de son hôte de son breuvage empoisonné, la magicienne le touche avec sa baguette en disant « Va donc rejoindre tes congénères dans la porcherie !» Stupeur, le beau marin barbu ne s'est en rien métamorphosé. Circé perd contenance. Comment est-il possible que cet humain résiste à ses pouvoirs magiques ? Profitant de sa sidération, Ulysse dégaine son épée et en appuie la pointe sur la gorge de la jeune femme. « Est-ce ainsi que tu respectes tes devoirs d'hospitalité, sorcière ? Je vais t'ôter la vie pour te châtier de ce que tu as fait à mes hommes. » Les cheveux de la belle se répandent autour d'elle, tandis qu'elle se jette à ses pieds, lui enserrant les genoux pour le supplier de l'épargner. « Je suis tout à toi, » murmure-t-elle haletante. « C'est la première fois qu'un humain me résiste. Faisons la paix et l'amour, si tu le veux bien. » La voix d'Ulysse frémit de colère lorsqu'il lui répond. « Comment oses-tu me parler d'amour alors que tu as transformé en pourceau mes amis les plus chers ?» Circé relève alors son visage baigné de larmes et d'une voix vibrante lui répond. « Tu as ma parole que je vais leur rendre leur apparence. Une parole de magicienne est sacrée. Tu as gagné. « Soyez désormais les bienvenus chez moi. » Puis, joignant les actes à ses serments, Circé court à la porcherie libérer les malheureux cochons. Elle leur frotte le dos d'un onguent de sa fabrication tout en les touchant de sa baguette magique. Dans l'instant, les voilà qui reprennent leur forme humaine. Mieux, les hommes ont rajeuni, ils sont plus vigoureux et plus beaux, comme si la partie animale d'eux-mêmes avait disparu pendant cette métamorphose. Quelle émotion dans ces retrouvailles! Fou de joie, Ulysse accepte cette fois de bon cœur de partager le repas et le lit de Circé. Les jours qui suivent ne sont que luxe, calme et volupté. Les marins restés à bord sont venus rejoindre leurs compagnons, à l'exception d'Eurylope, qui reste sur ses gardes. Les servantes s'activent pour leur offrir le bain et délasser leur corps épuisé. Viande, légumes, miel, fruits, céréales, rien ne manque au souper qui suit. Car l'île de Circé est une mer nourricière féconde. Désormais, la magicienne prend le plus grand soin de ses hôtes. Elle sait qu'ils ont souffert, corps et âme, depuis si longtemps. Elle connaît l'insondable tristesse qui habite leur cœur d'avoir perdu tant et tant de compagnons en route. Elle se transforme en guérisseuse, pour le plus grand bonheur d'Ulysse et des siens. Et Circé sait, petit à petit, ravauder l'espoir et tisser un horizon à ces guerriers désespérés de tout, semer des gouttes de bonheur au cœur du malheur. Un an se passe ainsi, dans la douce félicité de cette accueillante demeure. Chacun voit que Circé est rempli d'amour pour le bel Ulysse. Lui, de son côté, se laisse peu à peu ronger par les remords. Pourquoi reste-t-il aussi longtemps dans les bras de cette magicienne ? Ses compagnons se languissent de leur patrie. Quant à lui, chaque nuit, Pénélope vient le hanter dans ses rêves. N'est-il pas temps de reprendre la route ? un matin, alors que l'air embaume le printemps et qu'une nature généreuse éclate de toutes parts, Ulysse décide de parler à Circé. Il la retrouve dans son jardin, occupée à cultiver ses roses. Elle lève la tête, ses yeux verts plongent dans les siens, elle a déjà compris. « Je sais ce que tu viens me dire, » le devance-t-elle. Désarçonné, Ulysse pousse un soupir. « Tu nous accueilles merveilleusement bien, moi et mes hommes, ô magicienne aux doigts de fée, mais je ne peux pas passer le reste de ma vie mollement étendue dans tes draps. Ma terre me manque. Et ta femme aussi, je le sais, » répond tristement Circé. « Mais c'est ainsi, et je n'ai pas envie de te garder à contre-cœur auprès de moi. » Est-ce les rayons du soleil caressant sa joue, ou bien l'odeur entêtante des fleurs qui les environnent, ou bien encore l'âpre joie de se savoir bientôt de retour? Toujours est-il qu'Ulysse a soudain le cœur qui bat comme un tambour. Il se sent pris de vertige. Partir. Il va pouvoir repartir. Il se penche, cueille une rose et la glisse dans la chevelure de Circé tout en feignant de ne pas remarquer les larmes qui lui perlent aux paupières. « Je vais t'aider, » murmure-t-elle, « car d'autres dangers t'attendent, et tu vas encore avoir un peu besoin de moi pour leur échapper. » Circé était une chic fille, et elle n'était pas magicienne pour rien. Elle m'informa que je devais d'abord me rendre au royaume des morts avant de pouvoir rentrer chez moi. En suivant ses conseils avisés, je suis parvenu à gagner les enfers d'Hadès et à m'entretenir avec mes chers disparus. Au royaume des ombres, je fis une rencontre aussi bouleversante que douloureuse. Je me trouvais nez à nez avec Anticlée, ma propre mère, qui m'apprit qu'elle était morte de chagrin après mon départ. Tu t'imagines mon désarroi? D'autant que je croisais également les ombres de tous ces grands héros qui furent mes compagnons d'armes sous les murailles de Troie. Achille, Agamemnon, Ajax, Patrocle. Cette visite au pays des morts fut un vrai charivari d'émotions. Je versais à la fois des pleurs de tristesse et de joie. Car ma mère me donna des nouvelles réconfortantes de mon fils et de ma femme. Télémaque et Pénélope ne m'avaient pas oublié, bien au contraire. Ils se languissaient de mon retour. J'en fus transporté de bonheur. Mais elle m'apprit aussi dans quelles violentes difficultés ils se trouvaient englués. Ce qui les menaçait l'un et l'autre était terrible, et mon retour devenait plus urgent que jamais. Je retrouvai Circé pour m'enrichir de ses inestimables avis. Elle m'informa de chacun des obstacles qui se dresseraient sur ma route, ainsi que des moyens de les contourner. « Ah, précieuse Circé qui ne me tenait pas rigueur de mon abandon, comme j'ai eu raison de l'écouter à la lettre, car ce qui m'attendait encore était tout à fait terrifiant. »